This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte j'ai ouvert en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Et oui, 1986, mise à l'honneur. On peut l'exprimer ainsi, mais malheureusement, c'est une année de catastrophe. La plus grande catastrophe nucléaire de l'époque, avant Fukushima, ce sera Tchernobyl, dont on va parler. Ce sera aussi cette année-là où la navette spatiale Challenger va exploser en vol, 7 morts. Et puis, bien que ce soit moins conséquent, moins important pour la France, ce sera la disparition de 3 personnalités du showbiz, Daniel Balawan, Coluche et Thierry Leluron. 2 amuseurs publics, un chanteur en plein succès, contestataire par moment. Et voilà, c'est ainsi que l'année 86 va dérouler, malheureusement, ces étranges successions de catastrophes, il n'y a pas d'autre mot. Alors, en cette année-là, effectivement, Tchernobyl, première catastrophe vraiment d'une portée internationale après celle de 79 de Fragman Island aux États-Unis, mais qui n'a rien à voir au niveau des conséquences, puisque sur la déclaration officielle, on fera état de plus de 15 000 morts. Et on peut dire qu'encore aujourd'hui, on ne sait trop exactement combien de personnes ont été contaminées par cette catastrophe-là. Et il faut dire que les autorités soviétiques ont, à l'époque, évidemment, minoré et minorisé l'ampleur de la catastrophe.
Bonsoir. C'est un accident, le premier de cette nature officiellement, un accident qui a fait des victimes. Ce sont à peu près les seuls éléments livrés par l'agence officielle TASS à Moscou sur ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche dans la centrale électrique nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, à une centaine de kilomètres de la ville de Kiev. L'agence de presse américaine UPI, citant des témoins, membres d'équipes de secours, estime qu'il y aurait plus de 2000 morts, chiffre qu'il sera évidemment très difficile à vérifier. Sur ce que l'on sait de cet accident nucléaire, voici les explications de Patrick Hester.
Une centrale nucléaire semblable à celle-ci, orgueil de la technologie soviétique. 4 x 1000 MW, inaugurée il y a 2 ans seulement et présentée comme un modèle de sécurité. Samedi après-midi, dans une salle de commande identique à celle-là, il n'aura fallu probablement que quelques heures aux techniciens soviétiques pour comprendre que l'un des réacteurs de la centrale de Tchernobyl venait de provoquer l'accident le plus grave qui puisse se produire dans une installation nucléaire. Le cœur du réacteur commençait à fondre, échappant à tout contrôle. Un réacteur situé sous le sol de ce vaste hangar. Une installation différente des centrales françaises, puisqu'ici, il n'existe pas d'enceinte en béton pour emprisonner la partie atomique. Un réacteur composé de barres d'uranium, empilées dans des blocs de graphite, eux-mêmes parcourus par des milliers de tuyaux où passe l'eau du système de refroidissement. Cette eau qui fait tourner les turbo-alternateurs électriques. Une rupture des canalisations de ce circuit de refroidissement aurait entraîné la surchauffe du cœur d'uranium, provoquant l'incendie du graphite. 300 tonnes d'eau se volatilisent alors. Il est impossible de dire à cette heure comment la catastrophe a évolué ensuite, mais selon l'agence américaine UPI, le dégagement gazeux aurait tué 80 employés de la centrale, puis le nuage s'échappait du bâtiment contaminant la population avoisinante. Selon certains témoignages recueillis par l'agence UPI, 2000 personnes seraient mortes pendant leur transport à l'hôpital. Selon ces touristes finlandais en voyage à Kiev, tous les autobus de cette ville ont été réquisitionnés pour évacuer les 20 000 habitants de la zone sinistrée. Ce soir, le cœur du réacteur brûle toujours et les soviétiques ont demandé l'aide technique des Suédois et des Allemands pour éteindre l'incendie. La catastrophe n'est donc pas encore terminée. L'Agence atomique internationale de Vienne, chargée de contrôler la sûreté nucléaire dans le monde, a proposé le service de ses ingénieurs. Jusqu'ici, l'URSS ne les avait jamais laissés pénétrer dans la centrale de Tchernobyl. Une centrale qui travaillait pour produire du plutonium nécessaire aux militaires soviétiques.
Il faut rappeler que, un peu, le contexte de l'époque, on est en pleine guerre froide, et il faut se rappeler également que les soviétiques ont installé depuis pas mal de temps, en Iran notamment, une centrale nucléaire, justement, et il y a eu un problème. Et par conséquent, tout le monde surveille de très près l'évolution des centrales soviétiques. Et à partir de là, évidemment, Tchernobyl, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait quatre réacteurs, trois déjà assez anciens qui fonctionnent parfaitement. Le quatrième est un nouveau réacteur de conception tout à fait nouvelle qui existe depuis 3 ans et qui fonctionne a priori pas trop mal. Il faut donc savoir que ce réacteur, eh bien, il a une puissance de 1000 et des poussières, donc nettement supérieure aux autres, et que l'Union soviétique veut montrer sa puissance dans le domaine du nucléaire à partir de cet élément-là. En conséquence de quoi, contrairement à ce qu'on a toujours pu croire, l'accident de Tchernobyl n'est pas dû tout simplement à, on peut dire, un malfonctionnement. Il est dû au fait que ce qui paraît normal, évidemment, c'est qu'on fasse des contrôles. Eh bien, l'accident se produira suite à cette mise sous contrôle du réacteur afin de vérifier, dans le cas extrême, que se passerait-il et comment pourrait-on empêcher et enrayer immédiatement cette catastrophe nucléaire. Donc, on va volontairement provoquer une simulation d'accident de manière à faire valoir comment arriver à maîtriser cela. Alors, je ne suis pas technicien nucléaire, bien loin de là. Il faut savoir que le réacteur numéro 4, c'est une nouvelle formule qui est en fait composée d'un bloc de graphite traversé par des canaux verticaux dans lesquels sont placés des tubes de force qui renferment chacun plusieurs assemblages de combustible nucléaire. Le graphite, en fait, va assurer le rôle de modérateur et pour vraiment que puissent fonctionner les turbines, c'est tout simplement de la vapeur de l'eau qui est propulsée à l'intérieur et qui, portée à une température exorbitante, va développer de la vapeur et cette vapeur va faire tourner les turbines. Or, il faut dire aussi que, évidemment, il est nécessaire que soit maintenue une température suffisante mais pas excessive, pas trop faible non plus. C'est pourquoi, vous l'avez peut-être constaté, toutes les centrales sont entourées de pratiquement énormément d'eau qui circule. Et dans ce réacteur-là, eh bien, on va essayer justement de voir comment on peut maîtriser la température de l'eau. Alors, on pourrait croire que cet accident est dû à une défaillance technique. Pas du tout. C'est une défaillance humaine. Il faut savoir que dans tous les accidents, quels qu'ils soient, aussi bien nucléaires que non, accident d'avion dont on parle fréquemment, il faut savoir que la partie qui est due à la partie technique et non à la partie humaine est de 4%. Dans 196% des cas, c'est une erreur humaine qui provoque l'accident. Les 4% qui restent ne sont en fait compensés que par des situations où la main de l'homme doit intervenir. Et si la main de l'homme n'intervient pas, c'est la catastrophe. C'est pareil également pour les avions Dixit, les gens du BEA. Sachez donc que quand un avion s'écrase, c'est qu'en fait, eh bien, il y a eu une erreur humaine. C'est-à-dire que si on parlait du pilote, on va dire, il a donc l'information sur son tableau de bord comme quoi il y a un problème et le problème ne peut pas être résolu par la machine. C'est donc l'homme qui doit intervenir et si à partir de là il n'intervient pas, eh bien c'est le clash de l'avion. C'est aussi bête que ça et c'est pourtant ce qui arrive dans 96% des cas. On va donc revenir à Tchernobyl quand même et évidemment ce sont aussi des hommes qui sont là pour maîtriser cette alerte à l'incident. Et pendant ce temps-là, me direz-vous, eh bien, que fait le jazz dans tout ça ? Eh bien, tout simplement, il existe aux États-Unis, comme en URSS, des groupes de jazz. Le dernier en date, il s'appelle Allegro Jazz Ensemble. Il est composé de Alexander Fischer, je pense peut-être pas un soviétique pure souche à la trompette, de Vyacheslav Nazarov au trombone, Igor Bertman est au sax, Alexei Kurochkin au synthé, Nick Levinovsky au piano, Victor Voskin à la basse et Yevgeny Guberman à la batterie, plus un percussionniste, Yuri Gerbatchev et non pas Gorbatchev aux percussions. Thank you.
Of all cities, knows the dream of freedom.
11 septembre 2001, Ground Zero. Ground Zero, deux mots gravés à jamais dans la mémoire d'un peuple. Tout a basculé le 11 septembre 2001, à 8h48, lorsqu'un avion percute la tour nord du World Trade Center. À 9h03, un deuxième avion percute la tour sud. Une heure plus tard, à 10h05, la tour sud s'effronde. À 10h25, c'est au tour de la tour nord de s'effondrer. Le bilan est terrible, sans précédent, 2800 morts. La nation américaine est en deuil et la communauté internationale prend conscience du terrorisme. Le 11 septembre 2001, 19 terroristes, parmi lesquels Mohamed Atta, considéré comme le chef de l'organisation, détourne 4 avions, dont 3 vont se crasher sur l'un des symboles de la réussite américaine, les 7 tours du World Trade Center, et un autre, lui, directement sur le Pentagone. Tout a été minutieusement préparé par les kamikazes depuis leur QG en Allemagne. Venus s'installer sur le sol américain, certains ont pris des cours de pilotage à Venice, en Floride, et il faut dire qu'il est certain que déjà, tout avait été minutieusement calculé, puisque Ben Laden avouera par la suite que lui, en tant que stratège, avait déjà calculé le nombre de morts qu'il y aurait. Ce n'était qu'une supposition, et il dira qu'il est satisfait, parce que d'après lui, ça ne devrait pas dépasser les 1500 morts. Deux avions donc vont décoller de Portland, première étape Boston, avant d'embarquer à bord du vol numéro 11. Un vol qui va transporter 88 passagers et 11 membres d'équipage. Dans notre aéroport, là, dans le vol 175 d'United Airlines, 5 terroristes embarquent à destination de Los Angeles.
Ma'am, are you there?
Yes.
What seat are you in?
Ma'am, what seat are you in?
We just left Boston. We're up in the air.
I know.
We're supposed to go to LA, and the cockpit's not answering their phone.
Okay, but what seat are you sitting in? What's the number of your seat?
Okay, I'm in my jump seat right now.
Okay.
At 3R.
Okay, you're the flight attendant? Sorry, did you say you're the flight attendant?
Hello?
Yes, hello?
What is your name?
Hi, I'm going to have to speak up. I can't hear you.
Sure. What is your name?
Okay, my name is Betty Ong. I'm number 3 on flight 11.
Okay.
And the cockpit is not answering their phone.
And there's somebody strapped in business class, and there's... We can't breathe in business class. Somebody's got mace or something.
Can you describe the person that you said someone is what in business class?
I'm sitting in the back. Somebody's coming back from business. If you can hold on for 1 second, sure. They're coming back.
They
want to
know who
thinks
they stabbed who, you know. I don't know, but Karen and
I
got stabbed.
Okay. Our number one got stabbed. Our person is stabbed. Nobody knows who's stabbed who, and we can't even get up to business class right now because nobody can breathe. Our number one is stabbed right now.
Okay.
And our number five, our first class passengers, our first class galley flight attendant and our purser's been stabbed. And we can't get the cockpit. The door won't open. Hello?
Yeah, I'm taking down all the information, and we're also, of course, recording this. At this point...
This is operations. What flight number are we talking about?
Flight 12.
Flight 12. Okay, I'm
We're on flight 11 right now. This is flight 11.
It's flight 11. I'm sorry, Nidhi.
C'était la conversation à l'intérieur de l'avion, vous l'avez compris, avec le vol numéro 11 et la tour de contrôle, où eux ne savent pas vraiment ce qui se passe. Ils interrogent donc... une hôtesse qui, elle, s'est réfugiée et peut se permettre de communiquer. Pendant ce temps-là, le vol 77, American Airlines, avait 57 passagers à bord. Lui va décoller de Dulles, en Virginie, à destination de Los Angeles, avec cette fois-ci 5 pirates à bord. Majed Moked, Annie Anjour, Nawa N. Salem Al-Azim et Khalid Al-Mildar.
I think the guys are up there. They might have gone down their way up there or something. Nobody can call the cops that we can't even get inside. And I think there's mace that we can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked.
À 8h45, le vol 11 American Airlines percute la première tour du World Trade Center. L'impact a lieu entre le 96e et le 98e étage, faisant déjà plus de 300 morts. Au même moment, Marwan al-Sheli, aidé de quatre pirates, détourne lui le vol
175.
Les passagers se rendent compte qu'il se passe quelque chose d'anormal, mais ne savent pas exactement quoi. Et problème majeur, c'est que les aiguilleurs du ciel voient sur leurs écrans de contrôle que les avions ont été détournés, qu'ils se dirigent vers New York, mais n'ont pas encore pris conscience de ce qui se passe, à tel point qu'ils osent avouer qu'ils ne savent même pas vers où va l'avion.
Is he inbound to JFK?
We don't know.
You don't know where he is at all?
He's being hijacked. The pilot's having a hard time talking to the... we don't know. We don't know where he's going. He's heading towards Kennedy. He's, like I said, he's like 35 miles north of Kennedy now at 367 knots.
Okay.
No idea where he's going.
If you could please give us a call and let us know, any information, that would be great.
Okay. Now, I guess we're trying to work on... I guess there's been some threats in the cockpit.
There's been what? I'm sorry.
We'll call you right back as soon as we know more info.
Thank you.
Okay.
À cet instant-là, le vol 175 United Airlines percute à son tour la tour sud entre le 80e et le 94e étage. 200 personnes sont tuées sur le coup.
Oh my word! Oh my word! I'm sorry, I screamed. That's on purpose, Alfred. Somebody is doing this on purpose. Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry that I screamed. Alfred, did you see what kind of plane it was?
It just flew.
I just saw it fly right into it. Oh, Miranda, yes, I saw it on my, it's on my camera. Oh, this is so horrible. Oh my goodness. I saw it.
Effectivement, alors vous me direz, tout est tellement triste que même des musiciens qui sont présents sur place à New York et qui pourtant ne sont pas américains prennent conscience vraiment de ce qui se passe, peut-être avec une prémonition, car eux, pendant d'autres pays, se rendent compte que vraiment c'est dramatique. Et je crois que le plus bel hommage qui a été rendu donc, à cet événement, c'est la pianiste lettonne Amina Figarova, qui va écrire une suite complètement de 8 morceaux avec September Suite.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.